Nous ne sommes plus dans le domaine de la science-fiction. Les avancées de la technologie permettent aujourd'hui d'améliorer considérablement l'espèce humaine. Cœurs artificiels, biologie synthétique, prothèses bioniques, tout semble devenir possible pour amplifier les facultés physiques et morales et peut-être même envisager l'extension infinie de l'espérance de vie. Les éditions du Nous ont réuni le médecin Laurent Alexandre et le philosophe Jean-Michel Beignet pour une discussion nourrie sur le transhumanisme et pour comprendre ce qui se trame aujourd'hui dans les laboratoires. Ils sont nos invités dans un instant et j'attends vos messages sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Le climat à la une de la science aujourd'hui avec donc le démarrage de la COP22 au Maroc.
Oui, un an après la COP21 et l'accord historique de Paris, il est temps de fixer les règles du jeu climatique avec en toile de fond un réchauffement plus important que prévu. On fait le point avec le climatologue Olivier Boucher dans un instant.
Stéphanie Texier réalise cette tête au carré de début de semaine qui a été préparée par Chantal Le Montagnier.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Les robots font-ils l'amour? Le transhumanisme en 12 questions. C'est donc un livre qui sort chez Duno. Je reçois ses deux auteurs, le médecin Laurent Alexandre et le philosophe Jean-Michel Beignet. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Laurent Alexandre, est-ce que l'homme est sur le point d'abolir la maladie et la mort? Où en sommes-nous?
Alors, on n'y est pas encore, bien sûr, sinon ça se saurait. En revanche, on voit les acteurs, les géants de la Silicon Valley nous promettre la fin de la maladie.
Oui.
Google nous promet l'euthanasie de la mort avec sa filiale Calico. Microsoft a annoncé le mois dernier éradiquer le cancer dès 2026. Et puis Mark Zuckerberg, le propriétaire de Facebook, a annoncé toujours en fin septembre qu'il pensait pouvoir éradiquer la totalité des maladies humaines d'ici 2099. Bon. Donc oui, les géants du numérique nous prévoient un futur sans maladie et sans mort.
Ont-ils raison? C'est la question que nous allons poser évidemment tout à l'heure. À Jean-Michel Beignet, est-ce que l'homme augmenté est devenu une obsession absolue aujourd'hui à laquelle on ne va pas pouvoir échapper?
J'allais dire que parmi tous les turiféraires de Google, effectivement, c'est devenu une obsession.
Une bande d'obsédés.
Bah, ça, c'est une bande d'obsédés. Hein. Concernant la question que vous venez de poser, je rappellerai que les gnostiques du 2e siècle après Jésus-Christ annonçaient aussi l'immortalité pour demain.
Ouais. Mais ils n'en avaient pas les moyens, eux.
Eh bien, on va voir ça. La discussion est lancée avec vous deux et avec les auditeurs qui nous rejoignent sur le site de l'émission franceinter.fr. Et le mot-clé, l'attaque.
La science de l'environnement. En partenariat avec Reporter.net, le quotidien de l'écologie.
Il y a un peu moins d'un an, les Nations Unies quittaient Paris avec un accord historique pour limiter la hausse de la température globale à 2 degrés. Eh bien, elles se retrouvent aujourd'hui à Marrakech pour la COP22 avec un hymne de cette COP intitulé Our Home et interprété par la chanteuse Farda House. This is our home. Voilà, c'est l'hymne de la COP22, Hervé Kempf. Vous aviez entendu ça ou pas? Elle est belle, cette
non,
chanson.
Bravo.
Voilà, pour commencer cette conférence, donc, sur le climat. D'abord, un constat. En l'état actuel des promesses faites par les États, la hausse des températures sera de 3 degrés en 2100. Bonjour, Olivier Boucher. Olivier Boucher, est-ce que vous êtes avec nous? Bonjour.
Oui, bonjour.
Bienvenue à vous. Vous êtes climatologue pour le CNRS à l'Institut Pierre-Simon Laplace et donc Hervé Kempf, rédacteur en chef et notre partenaire de Reporter.net. Hervé, on commence par un point positif. 92 pays sur 192 ont d'ores et déjà ratifié l'accord de Paris à l'ouverture de la COP22, 9 mois après, hein? C'est du jamais vu, là, quand
c'est
même.
C'est très rapidement, parce que, par exemple, le protocole de Kyoto, il avait fallu 7 ans pour pouvoir le mettre en œuvre.
Oui. Donc, c'est le démarrage aujourd'hui, ça y est?
Tout à fait. Alors, ce bon point, en revanche, un point très inquiétant que vous avez signalé rapidement, c'est que selon, pour rester en deçà de 2 degrés de réchauffement par rapport à l'époque pré-industrielle, nous expliquent les climatologues, eh bien, il ne faut pas émettre plus de 40 milliards de tonnes d'équivalent CO2, 40 gigatonnes d'équivalent de CO2. Or, ce que constate le rapport du programme des Nations Unies sur l'environnement qui vient d'être publié le 3 novembre, c'est que si on fait la somme de toutes les contributions annoncées par les États pour réduire les émissions, on est beaucoup trop haut, on est encore à de l'ordre de 54 à 56 gigatonnes par an, c'est-à-dire, selon les calculs, quelque chose qui nous conduira à un réchauffement de plus de 3 degrés dans le siècle, c'est beaucoup trop élevé.
Alors justement, concernant ces estimations, Olivier Boucher, est-ce que ça veut dire que l'accord de Paris est insuffisant?
Mais disons, il est insuffisant, oui, pour les objectifs qui sont affichés dans l'accord de Paris, puisque quand on regarde l'ensemble des contributions qui ont été faites par les États et qu'on les quantifie, qu'on les traduit en chiffres, on arrive effectivement à une trajectoire de réchauffement de l'ordre de 3 degrés d'ici à 2100. Mais c'est pas quelque chose qui est gravé dans le marbre. Il y a encore la possibilité de faire mieux, de relever l'ambition de ces contributions d'ici à 2030 et puis au-delà de 2030, hein, ce qui va se passer après 2030 est important aussi. Et puis, on peut aussi faire pire si on relâche l'effort ou si un certain nombre de pays ne participent pas à l'accord de Paris.
Est-ce que ces discussions vont être et ces décisions vont être prises à Marrakech cette semaine ou...
Alors, je ne pense pas. Je pense qu'à Marrakech, c'est plus une COP qui va servir de préciser la mise en œuvre de l'accord de Paris, de préciser un certain nombre de règles techniques, justement de se donner les moyens de faire des révisions à la hausse des ambitions, mais plus d'un point de vue technique, ces révisions à la hausse, je pense qu'elles viendront dans les années qui viennent, et puis de discuter de la mise en place des financements pour l'adaptation, pour la réduction des gaz à effet de serre dans les pays en développement. Et puis aussi, ce qui est important, c'est de préciser les règles sur la notification, la vérification des émissions de gaz à effet de serre par les différents pays, puisqu'on a besoin de transparence pour, quelque part, instaurer un cercle vertueux et puis pour comprendre les politiques climatiques qui marchent et puis celles qui marchent moins bien et puis de que les pays puissent apprendre les uns des autres.
Quels sont parmi les gros émetteurs de CO2 mondiaux, ceux qui n'ont pas encore ratifié l'accord de Paris ?
Alors, les quatre pays les plus émetteurs, que sont la Chine, les États-Unis, l'Union européenne et l'Inde, ont ratifié l'accord de Paris. Parmi ceux qui n'ont pas ratifié, mais on peut mentionner la Russie et le Japon, parmi les gros émetteurs. Mm-hmm. On peut mentionner aussi l'Australie, qui n'est pas un gros émetteur, mais qui a des émissions par habitant qui sont assez élevées. Cela dit, c'est un processus qui peut prendre un peu de temps selon les législations de chaque pays. Donc voilà, ça a été quand même assez rapide et donc on peut espérer que ces pays vont rejoindre les autres pays qui ont déjà ratifié l'accord.
Olivier Boucher, entre 2 et 3 degrés, la différence semble très mince. Et pourtant, sur le terrain, c'est absolument gigantesque, hein, en tout cas pour certaines régions du globe.
Ah oui, certainement. Alors 2 degrés de réchauffement par rapport à la période pré-industrielle, c'est pas non plus un seuil en dessous duquel tout va bien et au-dessus duquel c'est une catastrophe, hein. Mm-hmm. C'est l'objectif qui avait été fixé parce qu'il est à la fois réalisable et ambitieux, mais même à 2 degrés Celsius, on a des impacts du changement climatique, une augmentation des extrêmes climatiques, en particulier les vagues de chaleur, des précipitations extrêmes, des déplacements de régime de pluie qui font que certaines régions arides risquent de devenir plus arides, donc des problèmes pour l'agriculture. Et à 3 degrés, ben, tous ces impacts sont exacerbés et dans certaines régions, il y a des régions voilà, qui vont être très vulnérables donc à un réchauffement de 3 degrés.
Alors, Hervé, pas question de revenir sur les engagements des États dans cette COP22. Que va-t-il se jouer cette semaine ?
Monsieur Boucher l'a très bien dit, je le redis avec d'autres mots, c'est comment en fait mettre en œuvre techniquement ce calcul des émissions ? Comment comptabiliser les émissions de gaz à effet de serre ? Quelles informations inclure dans ces contributions et avec quel niveau de détail ? Comment rendre compte des politiques publiques mises en œuvre ? C'est très formel, c'est très procédural. Et du coup, on a envie de poser la question, est-ce qu'on ne va pas encore perdre des années ? Parce qu'ils n'annoncent même pas un résultat cette année à la COP22, mais ils commencent à dire, ça sera peut-être prêt l'année prochaine et puis il faut que ce soit prêt en 2020. Mais pendant ce temps-là, est-ce que les choses ne continuent pas ? Donc, Monsieur Boucher, est-ce que là, on ne perd pas du temps quand même ?
Alors oui, ça fait longtemps qu'on perd du temps, hein. Donc on est quand même content de voir que les choses se placent, qu'il y a une certaine dynamique qui s'est mise en place. On peut mentionner quand même qu'il y a eu un accord sur les HFC, donc qui sont des super gaz à effet de serre, récemment, hein, en marge de l'accord de Paris. Il y a aussi eu une annonce faite par le transport aérien sur une limitation de leurs émissions qui ne sont pas couvertes par l'accord de Paris. Donc il se passe quand même des choses en dehors et à l'intérieur de l'accord de Paris, au niveau des régions, des villes et des pays. Donc je pense que oui, il y a toute la mécanique onusienne qui est un petit peu lente, mais voilà, il se passe des choses et c'est ça qu'il faut réussir à accélérer.
Pour le grand public, c'est un peu obscur tout ça. Donc l'accord de Paris n'est pas un accord contraignant, ça veut dire qu'aujourd'hui, cette semaine, va se jouer une discussion sur comment rendre compte de ce qu'on fait sans avoir de contraintes. C'est ça ce qui va se jouer ? En termes d'émissions de gaz à effet de serre, bien sûr.
Oui, l'accord de Paris repose sur les contributions volontaires des États. Donc c'est une approche qui est différente de celle qui avait été prise à Copenhague en 2009, où on avait essayé de faire une répartition contraignante des efforts à faire, et c'est quelque chose qui a échoué. Donc on est reparti sur ce mode donc de contribution volontaire. Donc c'est pas contraignant, et donc c'est insuffisant, hein, c'est ce qu'on a vu. Mais c'est mieux que rien, ça permet d'enclencher une dynamique, et voilà, il faut aller plus loin.
Olivier Boucher, une dernière question en lien avec l'actualité américaine. Est-ce qu'une victoire potentielle de Donald Trump, donc demain, serait un grave problème pour la lutte climatique ?
Alors, Donald Trump a annoncé effectivement qu'il remettrait en cause la ratification de l'accord de Paris par les États-Unis. Mmh. Donc, immanquablement, ça ralentirait, je pense, la transition énergétique aux États-Unis. Par effet ricochet, je pense que ça la ralentirait ailleurs aussi. Hein, il y a un certain nombre de pays qui seront un peu plus attentistes. D'un autre côté, on voit qu'il y a quand même une dynamique sur les énergies renouvelables qui est engagée aux États-Unis, la voiture électrique, la Californie est quand même assez pionnière en ce domaine. Et donc, il y a quand même des choses qui sont enclenchées que Donald Trump ne pourra pas arrêter. Donc, je pense que au fur et à mesure que ça devient économiquement rentable d'aller vers la transition énergétique, les États-Unis iront, quelle que soit la couleur politique.
À suivre en tous les cas. Merci Olivier Boucher. Démarrage donc aujourd'hui de la COP22 Hervé. Et bien sûr, reporter.net suit ce nouvel événement climatique. Hein.
Très attentivement.
Merci beaucoup et à demain Axel.
À demain Mathieu.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, la féminisation des formations scientifiques et techniques dans le monde n'a progressé que de 4 points en 10 ans. Résultat qui provient d'une initiative Sexisme pas notre genre, menée par le ministère des Familles, de l'Enfance et des Droits des Femmes. Les experts arrivent à cette conclusion plutôt décourageante. À ce rythme-là, il faudrait encore attendre 40 ans avant d'atteindre la parité homme-femme en sciences. L'étude analyse aussi la situation professionnelle et l'insertion des femmes dans les différents métiers. 33% de femmes en France dans les sciences dures, mais entre 45 ans et 50 ans, 15% à 30% de ces femmes changent de secteur. Les données complètes de cette enquête sont à lire sur le site du ministère. Si votre acné vous fait souffrir, voici une étude qui devrait vous consoler un peu. Selon des chercheurs britanniques, l'épiderme des personnes ayant eu de l'acné durant l'adolescence résisterait mieux au vieillissement. Des biopsies réalisées sur la peau de 1205 jumeaux, dont un quart ont subi de l'acné durant leur vie, le montrent. Les résultats de l'analyse génétique, bien justement, montrent que les télomères, l'extrémité des chromosomes des globules blancs, sont significativement plus longs chez les anciens lactéiques. Une preuve directe d'un moindre vieillissement. La production lipidique de la peau des acnéiques supérieure à la moyenne protégera donc plus efficacement l'ADN des agressions dues au temps. Et puis un morceau de métal de 7 cm découvert à la surface de Mars. N'y voyez pas une preuve d'une vie martienne. Il s'agit simplement d'une météorite un peu particulière, découverte par le robot Curiosity le 30 octobre dernier. Elle a la forme d'une grosse pépite et après analyse, elle est composée d'un alliage original de fer, de nickel et de phosphore. Surnommée Egg Rock, cette météorite métallique aurait fondu en traversant la fine atmosphère martienne et heurté il y a plusieurs millions d'années le sol. Une photo est à voir sur la page Facebook de la Tête au Carré. Allez, sur le transhumanisme.
And as I wake up from this crazy dream, I hope that things remain as they seem. 'Cause as I wake up from this crazy dream, oh, this dream.
Yeah, I had a dream about you last night, and we were listening to Farside. Something started spinning in the past, so I kept the singing to the bar side. We were on the last ride, saying it's the past, but the present moving fast. I ain't thinking about the last time, it's fine, but they were saying that you asked my brothers if I'm ready for the last line. Remembering the way you move, it's bugging me out. I kept sweet left feet, don't trouble me now. It gets peak if the deed starts loving the sound. But we were running from the beast off. 'Cause if I break the singular jack, cause a little bit of trouble, feel a fifth of the yak. It's not that quick to react. If I finish the pack, we move forward. Now I'm bringing it back.
And as I wake up from this crazy dream, I hope that things remain as they seem. 'Cause as I wake up from this crazy dream, oh, this dream. Thank you.
She was saying, don't start, got me feeling at the same time. I'm the one part, but repeating in the same shine. Said, I'm so dark, got a needle in the brain, it's fine. I'm lost part, but she's reeling in the blame, it's mine. It's mine, mine, mine.
And as I wake up from this crazy dream, I hope that things remain as they seem. Cause as I wake up from this crazy dream, oh this dream. And as I wake up from this crazy dream, I hope that things remain as they seem. Cause as I wake up from this crazy dream, oh, this dream.
Crazy Dream, Tom Misch sur France Inter.
La tête carrée sur France Inter.
Un médecin et un philosophe confrontent leurs arguments autour du transhumanisme. C'est l'objet d'un livre, Les robots font-ils l'amour, qui sort chez Duno. Laurent Alexandre et Jean-Michel Beignet, vous êtes donc avec nous dans le dossier de l'émission. Laurent Alexandre, vous êtes chirurgien, spécialiste des biotechnologies. Jean-Michel Beignet, vous êtes philosophe, spécialiste des nouvelles technologies. Et les auditeurs nous rejoignent avec les messages et les questions sur franceinter.fr. Alors ce livre d'abord, ce sont vos deux opinions qui se confrontent autour du transhumanisme. Alors si on veut caricaturer, on pourrait dire que Laurent Alexandre y est très favorable lorsque Jean-Michel Beignet s'en méfie beaucoup. Hein, vous êtes en désaccord fondamental sur ces questions. Un mot d'abord sur le titre, parce que franchement, quand on lit le titre de votre livre, Les robots font-ils l'amour, on se dit, tiens, qu'est-ce qu'ils vont nous raconter à l'intérieur? Et le transhumanisme et l'homme augmenté, bon, certes, vous parlez à un moment de la cybersexualité, mais enfin, ça n'est qu'un paragraphe quasiment dans le bouquin, Jean-Michel Beignet. Hein.
Est-ce que c'est pour ça que vous avez ouvert le livre?
Ah ben oui, donc vous voyez, finalement, ça a marché.
Ça a marché.
Mais aussi parce qu'on vous connaissait ouais, quand même ouais, un petit bon, peu, tous les deux. Ouais.
Ça correspond peut-être à un fantasme sexuel de notre éditeur.
Voilà, c'est ça. C'est chez Duno, ils ont envie de parler de ces questions-là. Alors c'est vrai que la vraie question, c'est celle-là, c'est celle de l'homme augmenté et donc de cette question du transhumanisme, Jean-Michel
Beignet. Bien sûr, oui, c'était exactement sur ce thème-là qu'est centré notre livre, de savoir, bon, de ce point de vue-là, les questions auxquelles nous répondons sont pertinentes, sont judicieuses. Hein. Faut-il améliorer l'espèce humaine? Jusqu'où pousser la recherche? Jusqu'où vouloir effectivement un homme augmenté? C'est bien de cela dont il est question. Ouais. Donc le contrat est quand même respecté à l'intérieur du livre.
Hein. Si vous êtes, Laurent Alexandre, l'homme convaincu justement par toutes ces technologies qu'on découvre au fil des pages, vous aimez aussi en discuter aujourd'hui? Alors, soit avec un philosophe, soit avec la société, il faut en parler aujourd'hui de ces questions qui sont vraiment des questions qui font partie déjà de notre réalité. Hein.
C'est un point que nous partageons avec Jean-Michel Beignet et que nous développons dans ce livre. Nous sommes face à une révolution et il faut en discuter. Et c'est quoi une révolution? Une révolution, c'est quelque chose qui change tout, qui bouleverse tout, qui casse tout de façon imprévisible. Effectivement, on ne descend pas de la révolution comme on descend d'un carrosse, disait Max Weber. Et on ne descend pas de la révolution technologique actuelle comme on descend d'un TGV. Donc nous sommes embarqués dans une aventure technologique. Personne n'en parle. Ça devrait être le sujet numéro un de la campagne présidentielle. L'intelligence artificielle et les nanobiotechnologies.
Ah oui, à ce point-là?
C'est le seul sujet. Ce que nous allons faire du pouvoir infini que nous allons avoir sur notre nature et de savoir ce qu'on va faire de l'intelligence artificielle, c'est le seul sujet de la campagne présidentielle et des primaires.
Ouais, est-ce que
aucun
c'est ça qui
homme
va donner,
politique n'en parle.
Est-ce que c'est ça qui donnerait du travail aux gens, par exemple? Tiens, est-ce que c'est un vrai secteur aussi pourvoyeur d'emploi? Ben justement, ce domaine des technologies en lien.
Alors il y a beaucoup d'emplois, mais d'un autre côté, on sait bien que l'intelligence artificielle va supprimer beaucoup d'emplois ou en tout cas va transformer beaucoup de métiers. Le premier métier aux États-Unis, c'est chauffeur routier, 780 000 personnes. Et avec la voiture autonome et puis le camion autonome qu'Uber est en train de développer, oui, ces gens-là n'auront plus de travail dans 20 ans.
C'est
et de reconvertir
ça,
des chauffeurs routiers.
C'est pour ça que les hommes politiques n'ont pas envie d'en parler.
Tout comme les chirurgiens urologues qui ne vont plus avoir de
Il n'y a pas que les chauffeurs routiers. On sait bien qu'en 2030, l'intelligence artificielle lira mieux un scanner que le meilleur radiologue sur Terre. Donc, la réflexion sur ce que nous allons faire de ce pouvoir, comment nous réorganisons la société face à cette révolution-là, ça devrait être le sujet de la présidentielle, et ça ne l'est pas. Et d'ailleurs, il n'y a aucun homme politique qui s'intéresse à ces sujets-là à l'heure actuelle, à part Emmanuel Macron.
Oui,
je suis bien d'accord.
Jean-Michel Beignet, alors il y a urgence à en discuter aujourd'hui ?
Absolument.
On est vraiment au cœur d'une révolution que nous ne voyons pas.
Alors, même si je n'utiliserai pas forcément le lexique de la révolution, je dirais en tout cas qu'on a affaire au sentiment que la technologie nous impose quelque chose comme un destin, qu'elle est irrépressible, qu'elle est absolument incontournable et qu'on est dans un phénomène d'accélération. Alors moi, c'est ce que je refuse a priori, c'est-à-dire de me laisser imposer la technologie comme cette fatalité. C'est la raison pour laquelle j'ai été très content que Laurent Alexandre et moi, nous puissions nous exprimer, parce qu'il s'agit de tâcher de mettre en culture, tout simplement, les innovations technologiques, leur donner un langage, mettre des mots dessus, de façon à pouvoir réellement en discuter. Hein, rien n'est pire, à mon sens, que le langage péremptoire du technologue, de l'ingénieur, qui dit « c'est comme ça, ça ne peut plus être autrement, nous n'avons plus le choix, il faut courir derrière ». Ben, je dis non. Précisément, nous avons encore la possibilité d'utiliser le langage et d'une manière générale tout ce qui est de l'ordre du symbolique pour mettre ça en perspective.
Laurent Alexandre, c'est pourtant vous un petit peu ce que vous pensez, c'est-à-dire qu'on est déjà au cœur d'une transformation profonde et on reviendra pas en arrière.
Il y a une révolution, il y a une modification profonde, mais c'est à nous de décider ce que nous allons faire de ces technologies-là. On voit bien que l'économie du XXIe siècle, elle s'oriente autour de quatre éléments fondamentaux. Des technologies explosives, c'est les nanobiotechnologies et puis les sciences informatiques. Une idéologie démiurgique qui est le transhumanisme, qui pense tuer la mort, développer l'intelligence artificielle et l'interfacer avec nous, et puis augmenter nos corps, notamment augmenter nos cerveaux. Et puis les plateformistes, c'est-à-dire les Google, Apple, Facebook, Amazon, qui développent une intelligence artificielle qui est quasiment gratuite et qui va dépasser le cerveau humain. Face à cette révolution, je partage avec Jean-Michel Beignet une idée, c'est qu'il faut en parler et qu'il faut que l'humanité tout entière décide ce que nous allons faire de la technologie. Là où nous divergeons un peu, c'est que je pense qu'aujourd'hui, la technologie s'est autonomisée, ce dont je me désole, et qu'elle galope tout seul. Et d'ailleurs, nous avons depuis 20 ans accepté Facebook, accepté les téléphones portables, accepté Internet, et nous ne nous sommes jamais posés 5 minutes pour réfléchir à ce qu'on allait faire de la technologie. Résultat des courses, 3 milliards de gens aujourd'hui surfent sur Internet, sur leur téléphone portable, et il n'y a jamais eu de débat politique, social, sur ce fait technologique majeur.
En tout cas, tout ça me rappelle un personnage de mon enfance.
Steve Austin, astronaute, un homme tout juste vivant. Messieurs, nous pouvons le reconstruire, nous en avons la possibilité technique. Nous sommes capables de donner naissance au premier homme bio-ionique. Steve Austin deviendra cet homme. Il sera supérieur à ce qu'il était avant l'accident. Le plus fort, better. Le plus rapide, en un mot, le meilleur.
Ah là là, si seulement on pouvait devenir l'homme qui valait 3 milliards, on en a tellement rêvé quand on était enfant, Jean-Michel Beignet. Mais c'est ça en fait, l'homme augmenté, non ?
Oui, moi je suis d'une génération qui est passée un petit peu à côté. J'étais un peu avant, moi.
Oui, c'est ça.
Et moi, c'était Bibi Fricotin, mais Bibi Fricotin
il y
aussi.
Pas de rajoute pas.
Il n'y avait pas de prothèse bionique.
Il y avait des choses de cet ordre-là quand même. Hein. On projetait pour l'an 2000 quand même des révolutions absolument bouleversantes. Mais ce qu'on prévoyait souvent, c'est que l'humain allait beaucoup rapetisser parce qu'il ferait de moins en moins d'efforts. Il aurait des trottoirs roulants, il aurait des robots pour satisfaire tous ses besoins et par conséquent, il n'aurait plus besoin de se développer. Donc c'était plutôt l'utopie d'un humain diminué qui s'annonçait là.
Laurent Alexandre, Steve Austin, on y est quand même, l'homme qui valait 3 milliards.
On en a en tout cas la possibilité technologique d'ici 2050. Nous n'y sommes pas. Mais effectivement, d'avoir une vision augmentée, d'avoir une force musculaire augmentée, les nanobiotechnologies, la génomique, les implants, laisse entrevoir cette possibilité d'ici 2050. Mais c'est pas parce que la technologie permet quelque chose qu'il faut forcément l'accepter. Et là encore, je rejoins Jean-Michel Beignet là-dessus. Nous devons discuter de ce que nous faisons de la technologie. La technologie nous emmène très vite vers ce destin utopique ou dystopique selon la vision qu'on a. Mais c'est à nous d'en discuter. Et il faut que la technologie soit ce qu'on décidera de ce qu'elle doit être, et non pas accepter une technologie autonome qui nous conduit vers un futur transhumain où nous serons augmentés. Bien sûr, il y a des questions politiques qui se posent. Si certains pays comme la Chine continuent à développer des stratégies eugénistes et que nous, nous continuons à ne pas être eugénistes, nous serons les larbins des Chinois. Donc s'il n'y a pas un accord international sur la régulation de ces technologies-là, nous serons les esclaves des pays qui seront les plus transgressifs sur le plan notamment neurotechnologique.
Ouais. Comment vous interprétez justement l'acceptation de ces nouvelles technologies par le peuple chinois, par exemple?
C'est très simple.
À l'inverse des occidentaux.
Alors d'abord, leurs racines judéo-chrétiennes ne sont pas là. Et effectivement, ce qui nous freine par rapport à la vision transhumaniste, ce sont nos racines que nous partageons ici, grecques et puis judéo-chrétiennes. Et puis par ailleurs, les Chinois voulant développer très vite l'intelligence artificielle, le peuple chinois est convaincu que s'il ne fait pas de l'eugénisme, ses enfants seront totalement sans emploi, seront marginalisés face à l'intelligence artificielle. Il est d'ailleurs significatif de voir que 50% des jeunes Chinois souhaitent utiliser les technologies génétiques pour avoir des bébés plus intelligents, alors qu'en France, il n'y a que 13% des jeunes parents qui souhaiteraient utiliser les technologies génétiques pour avoir des bébés plus intelligents. On voit bien que cette volonté d'augmenter notre cerveau pour résister à l'intelligence artificielle, elle est massive en Chine. Elle est beaucoup plus faible en Europe et en particulier en France.
Jean-Michel Bignier, disparité culturelle là-dessus quand même, hein ?
Oui,
très net. Hein.
Ça, il y a une disparité culturelle incontestable entre l'Asie et l'Occident. Malgré tout, il y a quelque chose qui est en train d'homogénéiser les trajectoires. C'est quelque chose comme un hyper-individualisme. Parce que le transhumanisme, il conjugue les choses, enfin il décline les choses en termes d'individus avant tout. C'est pour ça que parler de Chinois d'un côté, parler d'Américains de l'autre, du point de vue du transhumanisme le plus radical, ça n'a pas de sens. Puisque ce qui va avoir un sens, c'est que ce sont des individus qui vont tirer leur épingle du jeu, ce sont des individus...
Et ceux qui ont de l'argent, évidemment, en particulier. Là, on parle de disparité sociale.
Non, on peut pas dire ça. Tu sais très bien que les gens de Google veulent rendre tout le monde immortel et pas seulement les riches. Et tu sais très bien que ces technologies, demain, ne coûteront pas si cher que ça. Donc, en réalité, le transhumanisme n'est pas du tout élitiste. Le transhumanisme, c'est pas le Troisième Reich. Le transhumanisme, c'est l'augmentation et l'immortalité pour tout le monde.
Ah bon ?
C'est bien pour ça que le transhumaniste, il est difficile de lutter contre le transhumanisme. Parce qu'en réalité, c'est une idéologie de gauche. Ce n'est pas du tout une idéologie élitiste qui veut réserver la technologie aux élites de la Silicon Valley. Et ce serait d'ailleurs se tromper d'attaquer le transhumanisme sur son élitisme alors qu'il n'est pas du tout élitiste. Il est au contraire très social-démocrate.
L'immortalité
remboursée par la sécurité sociale.
Évidemment, le transhumanisme, une idée de gauche.
Je suis absolument pas d'accord.
Ça, c'est pour défendre Emmanuel Macron. Hein.
Non, mais il y a un transhumanisme français qui, effectivement, est un peu angélique et éthéré, hein, et qui considère qu'effectivement, les technologies, le prix de revient des technologies va baisser, et donc on pourra généraliser tous les bienfaits des technologies sur l'ensemble de la population. Mais le transhumanisme américain est beaucoup plus cynique. Je prends le cas de la responsable de l'Association mondiale du transhumanisme. Le mouvement s'appelle H+. Elle s'appelle Natasha Vitamore. Pourquoi pas. Et cette Natasha Vitamore, qu'on a interrogée il n'y a pas longtemps, Laurent Alexandre était présent, lors d'un colloque à Paris, on lui a posé la question. On lui a dit, mais est-ce que vous n'êtes pas en train de préparer une humanité à deux vitesses ? Les nantis d'un côté, et puis ceux qu'on appelle déjà les chimpanzés du futur, de l'autre. Et elle a répondu. Elle a répondu que la question ne se posait même pas. Quand on est dans un avion et qu'on nous annonce qu'il risque d'y avoir une dépressurisation et que les masques vont tomber, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous dit de mettre d'abord le masque sur votre nez avant de vous occuper de vos enfants. Ce qui n'est pas complètement absurde. Eh bien, on est dans la même situation. Aujourd'hui, il y a des technologies, il faut que les individus s'en emparent. Et puis après, s'ils peuvent faire quelque chose pour les autres, ça sera tant mieux, mais ce n'est pas dans le projet.
On vous laisse la tribune, les honneurs du pouvoir. On vous laisse voler la victoire. On vous laisse le soin de bien ingurgiter notre part de votre marché. On vous laisse notre âme sur le bas-côté, endettée, endettée, en détresse, à genoux de chagrin d'avoir fait le baise-main à l'austérité, son Altesse. On vous laisse nos hivers, on vous laisse nos étés, de quoi vous distraire et nous faire tomber.
vous laisse libéral démocratisé, chômage à volonté. On vous laisse nos destins s'ouvrir les veines en commission européenne. On vous laisse allonger la peur dans notre lit, mais faut pas toujours croire ce qu'on dit. Athènes, Apollon a raison de chanter ma liberté. On vous laisse nos hivers, on vous laisse nos étés, de quoi vous distraire et nous faire tomber. On vous laisse nos hivers et notre dignité, de quoi vous distraire pour quelques années. On vous laisse ArcelorMittaliser à Florange, l'or et l'acier.
On vous laisse cet étrange capitaliser sur la précarité.
On vous laisse à vos super hyper profits pour la belle vie.
Chez Lidl, le pack de bière a des pulsions suicidaires.
On vous laisse nos hivers, on vous laisse nos étés, de quoi vous distraire et nous faire tomber. On vous laisse nos hivers et notre dignité, de quoi vous distraire pour quelques années.
On vous laisse nos frontières se refermer, hommes à la mer émigrés, cap sur l'Angleterre, depuis la Guinée, t'as le temps d'apprendre à nager.
On vous laisse nos frontières se refermer sur la Méditerranée, enfant de la guerre. Cherche un bout de terre pour apprendre à marcher.
La loi du marché, Cyril Mokayesh et Bernard Lavillier.
Dans les 20 ans qui viennent, des nanorobots entreront dans nos cerveaux au travers nos vaisseaux capillaires. Et ils connecteront simplement notre néocortex à un serveur informatique externe. Ce sera une sorte d'extension de notre cerveau. Nous aurons alors un système de pensée hybride avec des composants biologiques et non biologiques. Mais la partie non biologique grandira de manière exponentielle. Aucune autre espèce n'a fait ça.
Qui est le monsieur que nous venons d'entendre, Jean-Michel Beignet, qui travaille chez Google?
Je pense que ça doit être
Raymond Kurzweil. Hein, absolument. Ray ouais. Qui est-il exactement?
C'est l'ingénieur en chef de Google. Et on lui a confié. Il a été à un moment donné, je crois, conseiller spécial d'Obama sur les questions de technologie. Et on lui a confié la création de l'Université de la Singularité.
Qu'est-ce que c'est que ça?
L'Université de la Singularité, c'est un. Est-ce que c'est un établissement à proprement parler? Je ne sais pas. Je dirais presque une espèce de collège invisible qui réunit néanmoins régulièrement les visionnaires de la planète se livrent à soit un brainstorming pour essayer d'agiter un petit peu les innovations technologiques, soit de diffuser à échelle réduite, presque en petite communauté, les informations nécessaires aux évolutions de la planète.
Ouais. En tout cas, tous ces géants, justement, Google, Apple, Facebook, Amazon, s'intéressent beaucoup, Laurent Alexandre, au transhumanisme. Il faut dire qu'il y a des intérêts économiques très forts autour de cela, non?
Ça dépasse le problème des intérêts économiques. Les dirigeants des grands groupes du numérique de la Silicon Valley, en réalité, ils sont transhumanistes indépendamment de leurs intérêts financiers.
Par philosophie ou...
Par philosophie, c'est une nouvelle religion. Ils veulent devenir immortels et puis permettre aux gens de devenir immortels. Ils veulent augmenter nos cerveaux. Et puis ça dépasse Google, Apple, Facebook, Amazon. Sergey Brin, le copropriétaire de Google, expliquait il y a quelques mois, nous allons faire des machines qui vont penser, raisonner et faire les choses mieux que les êtres humains le peuvent. Et dans la foulée de cette réflexion de Google sur notre avenir, où l'intelligence artificielle va nous dépasser, Elon Musk, le patron, le propriétaire de Tesla, le 2 juin 2016, a dit « À la vitesse à laquelle l'intelligence artificielle se développe, il est urgent que nous interfacions nos neurones, hein, notre cerveau avec des microprocesseurs, sinon l'intelligence artificielle va nous traiter comme je traite mon labrador.
Ouais.
On voit bien que cette crainte de la Silicon Valley que l'intelligence artificielle nous dépasse l'a conduit à proposer des choses vraiment révolutionnaires sur le plan cérébral et à proposer que nous fusionnions avec l'intelligence artificielle au travers de microprocesseurs branchés sur nos neurones. Nous sommes effectivement dans un monde qui est totalement étranger à l'univers philosophique européen. Ces gens veulent que nous soyons des démiurges, c'est-à-dire que nous ayons un pouvoir quasi divin sur notre nature ouais. biologique. C'est profondément choquant pour les petits bourgeois que nous sommes, ouais. nous,
Sauf que c'est aussi
européens.
La porte, c'est aussi la porte ouverte à tous les fantasmes, parce qu'on ouais. peut faire dire absolument ce qu'on veut et faire peur à absolument tout
Mais
le monde.
Mais le problème, c'est que nous ne parlons pas de fantasmes. En matière d'intelligence artificielle, elle est là et elle va nous dépasser dans les années qui viennent. En matière de technologie génétique, les enzymes comme les TALEN et les CRISP vont permettre de modifier notre ADN comme on change un texte sous Word. Nous ne sommes pas dans le fantasme, nous avons une réalité technologique. La question n'est pas de savoir si nous allons pouvoir, la question c'est de savoir comment organiser et gouverner ce pouvoir technologique et jusqu'où nous devons aller. Mais ce pouvoir, nous allons l'avoir.
Ouais, alors cet exemple précis de CRISPR, par exemple, que cite Laurent Alexandre, Jean-Michel Beignet, ça c'est intéressant parce qu'on y est vraiment, ça existe, tout le monde s'en empare, tout le monde est excité par cette idée de bricolage de l'ADN avec cette paire de ciseaux moléculaire dont on parle beaucoup avec Emmanuel Charpentier, qui est à l'origine justement de CRISPR. Ça, c'est une réalité, c'est-à-dire qu'on est, dedans. Donc effectivement, ce qu'il est en train de nous décrire, c'est peut-être pour demain, pouvoir changer, modifier l'ADN selon justement ces problèmes et...
Oui,
et nos volontés.
CRISPR-Cas9 est un cas intéressant parce que bon, cette possibilité de faire du copier-coller avec le génome, de l'editing.
Les CRISPR d'ailleurs, parce qu'on ne parle pas que de CRISPR-Cas9, il y en a beaucoup. Et...
Bon, c'est un cas de figure intéressant parce que bon, on s'aperçoit bien que c'est d'abord et avant tout un dispositif technique qui devrait permettre bon l'éradication d'un certain nombre de maladies, des thérapies géniques, etc. Mais qui est immédiatement ce dispositif détourné, dévoyé, mis au service de l'eugénisme.
Ouais. Mais ça, c'est le cas de toutes les technologies.
Absolument.
C'est pour ça qu'on peut faire ce qu'on veut de toutes les technologies,
mais le
meilleur comme le pire.
Mais c'est à ça précisément qu'on assiste aujourd'hui, à une espèce d'accélération du dévoiement de technologies à des fins toujours hyperboliques. Et l'hyperbole des hyperboles, c'est évidemment l'immortalité. Hein, c'est là où je suis pas tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Laurent, Alexandre, concernant la crainte qui pourrait être celle des gens de la Silicon Valley devant le pouvoir qu'on sera en train de déployer. Moi, je pense pas qu'il y ait crainte. Il y a une espèce d'euphorie du décessissement. C'est peut-être un peu compliqué à expliquer simplement, mais moi, je crois que on a affaire aujourd'hui à une démiurgie du décessissement. On se dit, voilà, on perd l'initiative et c'est tant mieux parce que ce qui va en advenir sera forcément meilleur que ce que nous avons laissé.
L'homme perd l'initiative.
Oui, il perd l'initiative.
Au profit de l'intelligence artificielle.
Et puis, puisque on parlait de religion, la religion qu'il y a derrière, elle est connue. Au 19e siècle, il y avait des philosophes comme Schelling qui expliquaient que la création du monde, c'est le résultat de quelque chose comme une distraction de Dieu. Dieu a laisser passer quelque chose, hop, comme s'il avait eu un hoquet, et le monde aurait été créé. Eh bien, il y a quelque chose presque de cela aujourd'hui dans j'allais dire l'idéologie ou dans l'esprit de nombre de visionnaires de la Silicon Valley, qui ont le sentiment qu'on est en train de préparer les conditions pour que émerge quelque chose qu'on appellera le post-humain ou qu'on appellera comme on voudra, mais qui nous échappera et qui sera forcément meilleur parce que nous avons laissé s'installer le pire.
Sophie nous dit, je trouve l'idée de l'immortalité absolument terrifiante. Si la science peut un jour nous éviter les maladies ou nous guérir de tous les maux du corps, elle ne saura pas prévenir et soigner les maux de l'âme et du cœur. À quoi vivre éternellement si c'est pour ne rien ressentir ? Laurent Alexandre.
C'est ce que pensent les déprimés. Si on n'est pas déprimé, on pourrait vivre 1000 ans.
Il faut voir votre visage quand vous dites ça.
Il y a plein de voyages à faire, il y a plein de livres à lire, il y a plein d'expériences à découvrir. Je ne suis pas sûr qu'on était plus heureux quand l'espérance de vie en France en 1750 était de 25 ans. Je pense que vivre plus longtemps, ça permet de faire plus de choses, sauf si on est déprimé et qu'on préfère se flinguer avant.
Ouais.
Je voudrais rebondir sur ce que disait Jean-Michel. S'il y a des saisissements et si nous abandonnons notre sort à la technologie, c'est parce qu'il n'y a pas de débat citoyen sur ces sujets-là et que nos politiques sont nulles. C'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a pas de débat politique. On voit bien aux États-Unis comme en France, les politiques parlent de choses totalement dérisoires alors que nous sommes face à une révolution incroyable. Donc la technologie galope parce que nous la laissons galoper et parce que les politiques ne connaissent pas ces technologies-là, donc ils n'en parlent pas.
Il faut peut-être que la société s'en empare avant même les politiques. C'est peut-être ça qui donne envie aux politiques d'en parler,
La société et les politiques doivent s'en emparer en même temps. Mais nous souffrons vraiment d'avoir des élites vieillissantes qui ne connaissent rien à la technologie. Et on voit bien parmi les candidats à la présidentielle que la plupart sont des gens qui ne connaissent pas la technologie, qui sont des gens plutôt âgés, qui sont complètement à côté de ces débats-là, qui étaient parfaitement adaptés pour les grandes questions des années 1970-1980, mais qui, par rapport à la question de l'intelligence artificielle et des nanobiotechnologies, excusez-moi l'expression, sont vraiment des burnes.
Bon, donc il faut aller chez vous, chez DNA Vision, par exemple, Laurent Alexandre, pour séquencer son génome et voir quelle maladie...
Non, je suis contre le séquençage individuel par les particuliers, ça doit être fait... Et préconisé par les médecins, et je suis contre le consumérisme génétique. Le génome est tellement compliqué qu'un individu ne peut pas gérer raisonnablement les millions de mutations dont il est porteur.
Bon, alors, imaginons, son médecin lui conseille justement un séquençage du génome. Il est au courant de toutes les maladies potentielles qui pourraient lui arriver. Est-ce que ça, c'est souhaitable, justement, pour un individu ?
Alors, vous avez deux choses. Vous avez les maladies qu'on peut prévenir. De savoir qu'on risque d'avoir une maladie pour laquelle il y a un traitement préventif, c'est bien.
Oui.
Ça permet d'éviter et de changer son mode de vie.
Sauf que maladie, elle peut aussi ne pas se développer. On n'est jamais sûr qu'une maladie se déclare.
On peut diminuer sa probabilité. En revanche, s'il n'y a aucun traitement, ça pose une vraie question.
Est-ce qu'il faut le dire ?
Faut-il savoir qu'on va crever quand il n'y a pas de traitement ? Alors, on a deux réponses. La première, c'est de dire non, il ne faut pas savoir. Et la deuxième réponse, c'est il faut savoir, de manière à pouvoir bénéficier des thérapeutiques quand elles arriveront, voire de s'organiser avec les autres malades potentiels porteurs de cette mutation pour favoriser la recherche. Et on commence à voir aux États-Unis des gens qui se cotisent entre eux pour développer des traitements pour les prédispositions génétiques pour lesquelles ils sont justement prédisposés.
Il y a quoi devenir dingue quand même ? C'est-à-dire qu'on n'en sort plus là.
À force de dépister tout et n'importe quoi de façon précoce, on devient dingue. Là, on parle des maladies graves. Il ne s'agit pas de dépister la prédisposition au rhume des foins. Pour les maladies graves, il vaut mieux faire quelque chose que rien.
Oui, mais prévenir sur une maladie qui peut-être n'arrivera pas, enfin, c'est quand même terrifiant. Se dire qu'on a cette épée de Damoclès au-dessus de la tête.
On ne va pas prévenir des maladies pour lesquelles il y a 1% de probabilité qu'il y ait quelque chose. On parle de maladies pour lesquelles il y a une probabilité majeure, 80, 90, 100% bien sûr.
Jean-Michel Beignet, il y a quand même des problèmes éthiques aussi autour du diagnostic précoce.
Bien entendu. Non, mais je pense que on a raison de redouter le développement d'une hypochondrie généralisée dans notre population. Longtemps, on a pensé que la santé, c'était le silence des organes. Formidable. Maintenant...
On veut faire tout parler.
On veut que les organes parlent continuellement. Continuellement. Et on va s'équiper de biocapteurs et de bracelets électroniques en permanence pour avoir des informations en temps réel sur le fonctionnement de nos organes. C'est effrayant.
Allez, on y revient dans un instant avec vous. On poursuit cette discussion autour du transhumanisme. Franceinter.fr et le mot-clé, l'attaque.
You sure you wanna be with me? I've nothing to give. Don't lie and say this love is best. Don't leave us in emotional pace. Take a walk, taste a rest. No, take a rest. I seen you digging a hole in your neighborhood. You're crazy, but you're lazy. No need to live in a lean-to. Your troubles must be seen to. See through money like it's paper. With faces I remember. I drink on a daily basis. Though it sort of cools my temper. It never cools my temper. Walking through the suburbs, they're not exactly lovers, you're a couple, especially when your body's double duplicate, and then you wait for the next Kuwait. Karma coma, Jamaica aroma, karma coma, Jamaica aroma, karma coma, Jamaica aroma, karma coma, Jamaica aroma. Take a walk, take a rest, taste the rest.
60 seconds with the strength we have together. But for now, emotional ties, they stay severed. When there's trust to be treated, someone with funk will hear beats. Karma, coma, Jamaica and Roma. Karma, coma, Jamaica and Roma. Karma, coma, Jamaica and Roma. Karma, coma, Jamaica and Roma.
Comme un massive attaque.
La tête au carré, jusqu'à 15h, sur France Inter.
Laurent Alexandre, Jean-Michel Beignet, les robots font-ils l'amour, le transhumanisme en 12 questions, c'est chez Duno, avec donc dans la tête au carré cet après-midi une bonne dose d'immortalité.
Je définirais le transhumanisme comme la poursuite de l'idée humaniste classique qu'on peut améliorer la condition humaine. On peut faire en sorte de vivre plus longtemps par l'addition de technologies et grâce aussi à la biotechnologie. On peut améliorer l'intelligence, avoir des émotions plus positives, s'entraîner à de nouveaux modes de fonctionnement. Et peut-être à long terme, changer à tel point qu'on deviendra une autre espèce, ou du moins une espèce différente de celle d'aujourd'hui. À la lumière de l'évolution, il est évident que notre espèce n'en est qu'à ses débuts. Même sans rien faire, nous allons évoluer et peut-être nous éteindre. Du point de vue de l'humanité, nous ferions sans doute mieux de prendre en charge l'évolution et de nous assurer d'aller dans la bonne direction. Car l'évolution ne se préoccupe pas des individus. Elle élimine les moins adaptés. Nous valons mieux que ça. L'évolution nous a peut-être créés, mais nous pouvons faire bien mieux.
Voilà, extrait d'un documentaire qui avait été diffusé sur Arte, Immortalité, dernière frontière. Alors justement, Laurent Alexandre, Jean-Marie Beignet, c'est quoi cette idée derrière le transhumanisme? C'est la fin du hasard? C'est la prise en charge de l'évolution? C'est créer une nouvelle espèce? Jean-Michel Beignet.
Ben oui, il paraît assez logique que la volonté de maîtrise se tourne assez vite sur le contrôle de la sélection naturelle elle-même. Au fond, nous sommes les produits d'une sélection naturelle qui nous a permis de survivre grâce aux techniques, grâce au langage, grâce à tous ces éléments-là. Il est normal qu'on applique une espèce d'effet réversif et qu'on se dise qu'aujourd'hui, ce qui nous a permis de survivre puisse se retourner sur les conditions mêmes du sein desquelles nous avons survécu. Et à ce moment-là, on va contrôler ce qui nous a sauvés à un moment donné. Et donc, il est parfaitement logique qu'aujourd'hui, on veuille appliquer tout ce qui est en notre pouvoir pour réguler les espaces de pression sélective dans lesquels nous vivons et nous assurer effectivement la suppression du hasard, parce que le hasard c'est la plaie pour les ingénieurs, supprimer le hasard, supprimer toutes les sources d'imprédictibilité, et puis faire en sorte moi je suis peut-être un peu brutal en le disant, mais d'étouffer le bricolage génétique qui définit la vie
tout simplement. Laurent Alexandre, d'accord avec ça ou pas?
Les transhumanistes, en fait, veulent franchir les dernières limites, c'est-à-dire supprimer les dernières limites à l'espèce humaine. Et il y en a trois. C'est-à-dire la limite géographique, et on voit bien le projet d'Elon Musk de mettre 100 millions de personnes sur 1 million de personnes sur Mars d'ici 2000, 2080. Supprimer la mort, c'est le projet de Google. Supprimer la maladie, c'est le projet de Microsoft et puis de Facebook. Mmh. Et puis aussi nous augmenter, hein, c'est le projet de beaucoup d'intellectuels transhumanistes et d'Elon Musk, le patron de Tesla, c'est-à-dire d'augmenter nos capacités intellectuelles, de faire de l'homme un homme, on dit en anglais « enhancé », l'enhancement, c'est-à-dire de supprimer nos limites. Le transhumanisme, finalement, est une idéologie psychopathique, c'est-à-dire qu'elle refuse toute limite. Les transhumanistes veulent démanteler les impossibles, veulent démanteler les limites et considèrent que l'homme a un droit illimité de modification de lui-même pour devenir tout puissant, pour devenir un homme-dieu.
Pourtant, l'homme a besoin des mythes.
On a parlé aussi de changer d'espèce. Hein, oui. Changer d'espèce.
Oui. Mais l'homme a besoin de mythes quand même, non?
De limites.
De mythes.
Ah, de mythes.
De mythes.
Ben oui, il a besoin de mythes, mais là, c'est le mythe d'une sortie de l'humanité elle-même. Ouais. Donc, on est en train de forger, effectivement, une mythologie qui vise à nous arracher à ce que nous sommes, précisément, pour devenir autre chose.
Olivier nous dit sur franceinter.fr, si le transhumanisme n'est pas élitiste, alors qu'est-ce qu'il est, humain? On n'est pas obligé de monter dans l'avion, crachez-vous sans nous, moi je ne monterai pas dans votre avion, surtout n'atterrissez pas, vous risqueriez de voir la misère augmenter et augmenter. Pas de fantasmes, juste des choix à faire, dit Olivier.
Bien sûr, le problème c'est qu'on ne peut pas raisonner comme ça. Puisqu'on n'a pas interdit à l'échelle mondiale l'intelligence artificielle, nous, humains de 2016, nous allons nous confronter dans les décennies qui viennent à une intelligence supérieure à nous-mêmes, l'intelligence faite de silicium. Et donc, c'est plus compliqué que votre auditeur le pense. C'est-à-dire que
parenthèse, c'est quoi l'intelligence faite de silicium?
Ben, l'intelligence artificielle, l'intelligence basée sur les microprocesseurs qui se développe tous les jours, hein, qui conduit les voitures mieux que nous, qui va soigner le cancer mieux que nous, qui va analyser les scanners mieux que nous. Et donc, si nous ne nous augmentons pas, nous risquons effectivement, comme le dit Elon Musk, d'être les labradors de l'intelligence artificielle de 2050. Donc en réalité, malheureusement, nous n'avons pas forcément le choix, puisque l'espèce humaine ne veut pas ou ne peut pas interdire l'intelligence artificielle, il faut bien que nous nous augmentions pour éviter d'être vassalisés.
Patrice nous dit « La raison et la réflexion doivent précéder l'action scientifique, donc les choix doivent être politiques avant d'être scientifiques. Le malheur vient du fait que les scientifiques savent s'organiser en puissant lobby et soumettre les élus trop souvent dévoyés.
Bah, » ça me paraît effectivement...
C'est quand même une vision très sombre du milieu scientifique, ça.
Ben oui, oui, mais enfin, malgré tout, on peut aussi considérer qu'il y a un certain nombre d'organismes de recherche qui sont suffisamment sensibles à cela pour mettre en place des structures de délibération avant la programmation de la recherche.
Laurent Alexandre ?
Je pense qu'il y a un problème plus grave. C'est qu'en réalité, les grandes puissances technologiques que sont la Chine et la Californie ne sont pas du tout sensibles à notre argumentation. Et donc, pour empêcher la Chine de développer l'intelligence artificielle, bon courage. C'est-à-dire, c'est pas avec notre budget militaire famélique en Europe qu'on va aller bombarder Shanghai et leur interdire de développer l'intelligence artificielle ou la sélection embryonnaire génétique. Donc, effectivement, on peut vouloir que la science s'arrête, sauf qu'on n'en a pas les moyens militaires, ni philosophiques, ni intellectuels. Et votre auditeur, je lui souhaite bon courage quand il va manifester devant l'ambassade chinoise avec sa petite banderole en espérant que la Chine arrête de développer l'intelligence artificielle. Il va juste être ridicule, malheureusement.
Bon, ça s'appelle « Les robots font-ils l'amour ?» Pardon, le transhumanisme en 12 questions. J'ai beaucoup de mal avec votre titre, décidément. C'est chez Duno, Laurent Alexandre et Jean-Michel Beignet. Et puis on peut signaler ce Labo Origine auquel vous allez participer. Jean-Michel Beignet, organisé par Marie-Odile Monchicourt, ce sera dimanche 20 novembre à 18h30 au Théâtre de la Reine Blanche. Il fait beaucoup pour la science, il faut vraiment encourager ce théâtre qui fait des choses magnifiques. Festival des idées, l'être-machine, le transhumanisme aux origines du futur. Donc c'est le 20 novembre, les renseignements auprès du Théâtre de la Reine Blanche. Et puis vous avez un autre ouvrage, Jean-Michel Beignet, c'est La Sagesse Ordinaire, pour nous sortir un peu du transhumanisme, justement. Et c'est aux éditions Le Pommier. Merci beaucoup à tous les deux.